Alors, j'en parlerai en langue française, bien entendu. Abandon est un mot français qui a des voisins très proches dans les langues romanes, par exemple, abandono en espagnol. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en français, et plus que dans les autres langues romanes, le mot, et comme beaucoup d'autres mots, est habité par l'étymologie. Abandono en espagnol a un seul sens, qui est le sens de délaissement, tandis que le mot français abandon a à la fois le sens de délaissement et de renonciation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans ce raccourci toute l'histoire du mot, que je vais détailler un peu plus tard. Donc, quand on parle d'abandon, en général, tout de suite, c'est l'émotion qui nous soulève. Abandon est un mot opaque, un mot clos et un mot plein. On parle d'abandon et on entend des sons. A, B, pas de C, on s'est fait voler, le D qui sonne. Et c'est d'emblée, on est dans l'émotion et on se remet en situation d'apprendre à relire et relier nos émotions comme un enfant épellerait l'alphabet. Avec quelques confusions qui sont nées justement de ce trop-plein émotionnel. Cet abandon, ce sont trois syllabes comme trois notes de musique. Elles commencent en alphabet et elles finissent en coup bas. Quelque part, il y a de la souffrance. Alors, abandon, c'est un mot simple, mais en apparence seulement. Il a une grande puissance d'évocation. Il a une très forte capacité de nous ramener tous des souvenirs intimes. Personne qui n'ait de lien avec l'abandon. Enfin, je ne crois pas. Des souvenirs intimes et personnels, mais qui sont tous reliés entre eux autour d'un noyau central dont il va être question aujourd'hui, c'est l'abandon. Alors, est-ce qu'il n'y aurait rien à en dire? Parce que c'est un mot trop clos, un mot trop lourd. Est-ce que simplement on peut dire que c'est l'horreur absolue? C'est peut-être pas suffisant. Je pense que justement, il faut en parler. En parler parce qu'à l'abandon est liée souvent la punition. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc., etc. Et donc, pour en parler, d'abord, je vais m'intéresser à l'étymologie. Et de là, introduire une analyse comparative à partir de la mythologie, c'est-à-dire de passer de l'histoire du langage aux origines de la mythologie. Et là, vous verrez aussi qu'il est question de langage. Et ensuite, on abordera la littérature, parce que la littérature est l'histoire intime de l'humanité, tandis que la mythologie est l'histoire officielle, l'histoire des fondations, des origines, mais l'histoire reconstruite, l'histoire convenable, celle qu'on veut laisser à la postérité. Alors commençons tout de suite, parlons d'abandon avec le secours de l'étymologie. Alors, historiquement, il y a un avant et un après XVIIe siècle dans le langage. Alors, abandon vient d'un mot indo-européen. Vous avez la syllabe centrale ba qui a donné ban, qui désigne la parole solennelle et qui a donné, dans certains cas, la loi. La parole solennelle a donné en grec le verbe phémi et le latin fari, d'où sont dérivés fas et qui nous ont donné fatum, le destin, un jour faste, un jour néfaste. Tout ça, c'est le même environnement de parole. Et c'est lié à abandon. Ensuite, le ban en francique, c'est la langue des anciens francs, est devenu ce qu'on connaît, mettre au ban de la société, c'est-à-dire mettre hors jeu, hors la société humaine. Ceci, c'était vers 1130. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un avant et un après XVIIe siècle, et il y a vraiment deux sens distincts d'abandon. Alors, avant le XVIIe siècle, le mot abandon, qu'on dit plutôt abandonner, écrit en trois mots, abandonner, c'est donner à ban, c'est-à-dire lâcher, remettre en liberté. Et on l'emploie à propos de choses ou à propos d'animaux, notamment de chevaux, d'oiseaux, de faucons pour les chasseurs. C'est-à-dire abandonner, c'est replacer dans l'univers naturel, non humain ou non humanisé. C'est un univers hors la parole et hors le lien, un univers libre. Libre avec le double sens de ce mot, sens positif et négatif. On est libre, mais on est délaissé. Mais ça n'est pas encore, c'est notre vision moderne, ça n'est pas encore le cas avant le XVIIe siècle. Alors, un tournant, une évolution se fait autour du XVe siècle. Le sens dominant, celui que nous connaissons actuellement, émerge. C'est abandonner désormais, c'est ne plus s'occuper, de. C'est laisser. Mais c'est toujours pour les choses, pour la terre, pour les bêtes. Et donc, vous voyez, ce premier sens, c'est un sens non psychologique. Il n'y a pas d'idée de délaissement. Et c'est un sens sans jugement. Abandonner, c'est remettre dans le flux commun, remettre au pot, si vous voulez. Paradoxe, au XVIIe siècle, l'abandon s'humanise, mais en même temps qu'il s'humanise, il prend un sens négatif, néfaste. Et rappelez-vous que abandon et néfaste ont la même origine, la parole. Ce sens négatif est aussi un sens moral. Il y a d'un côté l'abandonneur, qu'on peut écrire aussi en deux mots. Vous me direz qu'est-ce qu'il donne, on en reparlera. Et puis il y a, bon, l'abandonneur, c'est le méchant. Et puis il y a l'abandonné, qui est le malheureux délaissé, qui est dans la déréliction totale, vous voyez. Et donc cette application d'abandon se fait à partir du XVIIe siècle aux personnes. Et avant le XVIIe siècle, ce n'était pas le cas. Et ce sens va se populariser au XVIIIe siècle. On le retrouve par exemple dans Rousseau. Rousseau qui était un enfant abandonné. Enfin, il a eu son père, mais enfin, l'abandonné, son père l'a délaissé très vite et l'abandonné est devenu abandonneur, comme vous savez. Voilà, et ensuite, en notre siècle, ou non, c'est déjà le siècle dernier, vers 1950, apparaît l'adjectif abandonnique. Vous voyez qu'on est très loin d'être au banc de la société et remettre en liberté. Mais enfin, ce mot banc a donné énormément de vocabulaire français. Vous avez la banlieue, vous avez la bonne aubaine, tout ça, c'est la même origine. Donc, on voit là que la loi, la parole et le lien sont les trois sources de l'abandon.